Radio de la Paix, la grande interview.
Ben Diakité.
Bonjour à tous, bienvenue à la grande interview. Dans le cadre de la grande interview, nous recevons le professeur Bertrand Badi. Il est professeur à Sciences Po au Paris. Avec lui, nous allons parler des nouvelles relations internationales. Il est en Côte d'Ivoire dans le cadre donc de la semaine des leaders pour la paix. Une semaine qui est organisée en collaboration avec la Fondation Amadou Gan Coulibaly.
Radio de la paix, se parler, s'écouter, se comprendre.
Professeur Bertrand Badi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio de la paix. Quel est aujourd'hui votre regard sur les relations internationales de façon globale? Comment va le monde aujourd'hui?
Alors, vous savez, il y a une tendance humaine qui consiste à penser que tout est comme avant et d'aller chercher des exemples anciens pour interpréter ce qui se passe aujourd'hui, qu'il s'agisse du Sahel, qu'il s'agisse de l'Afghanistan ou qu'il s'agisse du conflit russo-ukrainien. Mais on n'a pas suffisamment mesuré à quel point le monde avait changé et combien les comparaisons historiques sont périlleuses. Nous sommes face à un monde inédit, face à une situation que nous n'avons jamais connue auparavant. Ça veut dire quoi? Quand on ne connaît pas une situation, on est dans l'incertitude. Et si vous me demandiez un mot pour caractériser les relations internationales d'aujourd'hui, je dirais incertitude. Et l'incertitude a toujours des périls. C'est-à-dire que on n'est pas sur une route asphaltée avec des panneaux indicateurs. On n'est pas du tout dans une logique mimétique. Vous savez, beaucoup de gens nous parlent d'un retour de la guerre froide, d'un retour des blocs, d'un retour de la guerre. Il y en a même qui parlent de Troisième Guerre mondiale. Rien de tout cela. On est, je dirais, au moins face à trois grandes nouveautés qui sont des vrais dénominateurs communs, qui s'appliquent à l'Afrique, à l'Asie, à l'Europe, à l'Amérique. Premièrement, on est dans un monde d'ébullition sociale, de dynamique sociale. On a l'impression que les peuples, les pressions sociales, de quelque nature qu'elles soient, l'emportent sur l'agenda des gouvernements. Regardez la résistance sociale ukrainienne qui a mis en déroute une des armées les plus fortes du monde. Mais regardez aussi dans le Sahel l'incapacité, la paralysie des gouvernements, des armées face à des phénomènes de décomposition sociale, des phénomènes de tragédie sociale. C'est la tragédie sociale qui gouverne. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on est dans un monde mondialisé. Un monde mondialisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se passe n'importe où dans le monde concerne tout le monde. Le jour où a commencé la guerre russo-ukrainienne, le 24 février 2022, il se trouve que moi-même, j'étais en Afrique à ce moment-là, j'étais au Tchad. On a vu à quel point, aux quatre coins du monde, on s'est senti concerné parce que cette guerre mettait en cause la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité économique, parce que cette guerre créait des flux migratoires. Et donc, nous ne savons pas nous adapter à ce monde global. Et ça, c'est quelque chose qui probablement va marquer les paralysies, les erreurs, les tétanies encore pendant bien des décennies. Et puis la troisième différence, c'est que il est fini le temps où l'Europe réglait ses propres problèmes et les problèmes des autres. L'Europe n'est plus en mesure, pas plus que l'Amérique du Nord, de régler les problèmes des Africains, des Moyen-Orientaux, des Asiatiques. Mais l'Europe n'est plus en mesure de régler ses propres problèmes sur son continent. Et on le voit bien dans le conflit russo-ukrainien, comment l'Europe est frappée d'inertie. On ne peut même pas imaginer une négociation entre Européens, entre Russes et Européens pour régler ce problème. Et le grand changement, c'est que peut-être demain, après-demain, c'est le monde extra-européen qui réglera les problèmes de l'Europe. Peut-être l'Asie, peut-être l'Afrique vont être ces leviers qui permettront peut-être de promouvoir la paix à l'intérieur de cet espace européen. Vous vous rendez compte? l'Europe qui va être faite par des non-européens. C'est du jamais vu.
Alors, professeur Bertrand Badi, si vous voulez bien, on va revenir sur la crise ukraino-russe. Cette crise, est-ce qu'il est faux de penser que ça va changer la vision du monde, l'ordre mondial qui était jusque-là, qui existait, avec un gendarme tout-puissant et qui était partout?
Alors, le gendarme tout-puissant, si vous avez remarqué, depuis 1945, il n'a réussi à régler aucune circulation. Il n'a jamais pu véritablement imposer sa loi. Regardez les États-Unis, près de 40% des dépenses militaires mondiales, la plus grande armée du monde, un budget militaire de 800 milliards de dollars. Et pourtant, les États-Unis ont perdu toutes les guerres qu'ils ont menées seuls depuis 1945. Il s'agit du Vietnam, de la Somalie, de l'Irak, de l'Afghanistan encore récemment. Donc là aussi, c'est un tournant. C'est-à-dire, la puissance est devenue impuissante. Et souvent, le faible gagne face au fort. Donc, cette idée de gendarme du monde, qu'on appelait aussi la politique du gros bâton, qui a germé dans les esprits à la fin du XIXe siècle, alors que l'Europe était dans l'aventure coloniale et que les États-Unis commençaient à sortir d'eux-mêmes pour s'intéresser au reste du monde, ce grand fantasme qui a eu des effets à partir du début du siècle suivant, du XXe siècle, ça c'est un mythe qui est dépassé. Alors on entre dans une autre logique, qui est ce que je disais tout à l'heure. Finalement, les sociétés bougent plus que les politiques. Donc il va falloir surveiller tout cela et faire en sorte que cette dynamique sociale ne soit pas un séisme social, mais soit une régulation sociale. Ça, c'est le grand dessein d'avenir. Et puis surtout, il va falloir s'habituer à compter avec ceux que, sur un ton un peu méprisant, en Europe ou en Amérique du Nord, on appelait la périphérie, le tiers-monde. Vous savez, quand j'étais étudiant, on employait ce terme de périphérie pour désigner tout ce qui n'était pas euro-américain. Oui, c'est ça, l'Occident ou même le bloc soviétique. Alors, en gros, la périphérie, c'était l'Afrique, c'était l'Asie, l'Amérique du Sud, un peu. Et donc, ce temps-là, il est terminé. D'abord, cette fameuse périphérie, elle commence à être majoritaire dans le monde. Démographiquement, du point de vue des richesses du sous-sol, du point de vue de ces dynamiques politiques aussi, il ne faut pas l'oublier. Et donc, de ce point de vue, il y a une lente mutation du monde. Vous savez, quand je parlais de mondialisation tout à l'heure, derrière la mondialisation, il y a une idée très forte, qui est l'idée d'interdépendance. On est, avec la mondialisation, c'est-à-dire depuis le dernier quart du XXe siècle, hein, en gros, on est dans un monde où tout le monde dépend de tout le monde. Alors, quand tout le monde dépend de tout le monde, ça veut dire que le fort, il dépend aussi du faible. Et ça veut dire que, du coup, plus personne n'est capable d'assurer pleinement son hégémonie. En matière énergétique, en matière de ressources alimentaires, en matière de ressources minérales, bah, je vais dépendre des autres. Et ça, ça crée un autre monde. Parce qu'il n'y a pas un peuple élu, un peuple chéri de Dieu qui aurait tout dans son sous-sol et qui pourrait se suffire à lui-même. Il n'y a pas un pays au monde sur 193 qui puisse dire « moi, j'ai besoin de personne ». Ça n'existe pas. Alors autrefois, ça n'avait pas d'importance parce qu'à partir du moment où vous aviez une armée puissante, que vous dépendiez de l'extérieur ou pas, c'était la même chose. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, il faut composer.
Alors revenons sur le continent africain avec ces différentes mutations dont vous parliez. Aujourd'hui, en termes de relations internationales, alors, quand on regarde par exemple la sous-région ici, l'Afrique au sud du Sahara, on se rend compte avec le phénomène des attaques, je vais pas dire terroristes, mais des attaques violentes qui sont posées ça et là sur le continent. Comment on peut interpréter l'apparition de cette situation par rapport à ces pays-là dans la loupe internationale, relations internationales?
Alors, évidemment, c'est le grand problème. C'est le grand problème qui est relié à beaucoup de points que j'abordais tout à l'heure. Pardon de dire les choses brutalement, mais vous savez, on est tous les serviteurs de la vérité. Et quelquefois, elle n'est pas belle à regarder. Mais il faut d'abord considérer que la décolonisation n'a pas atteint ses vrais objectifs. C'est-à-dire que la décolonisation a été suivie de l'importation des modèles politiques empruntés à l'ancien colonisateur. Or, l'État occidental, il était fait pour régler des problèmes qui étaient le problème des sociétés occidentales lors de la Renaissance, avec une autre culture, une autre histoire, une autre économie, une autre structure sociale. Et ce que l'on voit comme problème numéro un en Afrique, c'est un délitement des institutions et le fait que les populations, c'est-à-dire les vrais humains ne se reconnaissent pas dans un ordre politique qui leur est extérieur et dont ils ont l'impression qu'il ne leur a pas apporté tout ce dont ils avaient besoin. Il y a une crise institutionnelle profonde. Vous vous rappelez la fameuse phrase de Barack Obama qui disait « on n'a pas besoin de leaders forts, on a besoin d'institutions fortes ». Il avait raison, d'un certain point de vue. Mais ce n'est qu'une partie du problème. L'Afrique est la région du monde la plus frappée par ce que l'on appelle l'insécurité globale, c'est-à-dire les dysfonctionnements du système planétaire. L'Afrique souffre terriblement des effets du changement climatique, de la désertification. Vous savez que dans certaines zones du Sahel, la désertification augmente de 10 cm par heure, pas par jour, par heure. Et cela crée une crise foncière terrible. Et cela tend à créer des tensions énormes entre éleveurs et agriculteurs, peut-être même pêcheurs qui remontent du golfe de Guinée où ils ne peuvent plus pêcher et qui, soit dans certains pays comme le Nigeria, essayent de pomper clandestinement le pétrole, ce qui crée des désastres écologiques et qui affaiblit encore la capacité agraire de ces pays. Par ailleurs, l'insécurité sanitaire et l'insécurité alimentaire, dans un contexte d'explosion démographique, rend ces sociétés encore plus vulnérables. Donc nous avons affaire, vous parliez de terrorisme tout à l'heure, il y a peut-être du terrorisme, un mot d'ailleurs qui est très difficile à définir, mais c'est un épiphénomène par rapport à ces plaques sismiques énormes que constituent le désastre climatique, le désastre alimentaire, le désastre sanitaire. Pensez aux ravages du paludisme, de la dysenterie infantile, de la rougeole qui refait son apparition dans certaines régions d'Afrique et notamment d'Afrique sahélienne. Et tout ceci crée une situation d'extrême fragilité sociale, de décomposition sociale qui est belligène. Il n'y a pas besoin de terroristes pour passer à la violence. Alors, les villages effrayés créent leurs propres milices qui vont effectivement s'attaquer aux autres milices. Et puis, vous avez tout un tas d'entrepreneurs mafieux, de mafias, de contrebandiers de toutes sortes qui profitent de cette situation de désorganisation sociale pour réaliser leurs propres bénéfices, leurs propres avantages et alimenter cette dynamique de la guerre. Alors, face à ce qui est une pathologie sociale, le canon sert à rien. Au contraire, le canon aggrave les choses. L'échec de Barkhane, qui est un échec patent, c'est ça. C'est un peu comme un médecin qui ferait un faux diagnostic et qui donnerait à son malade une thérapeutique inadaptée qui aggraverait le mal plutôt que de le guérir. On en est là.
Professeur Bertrand Badi, comment on peut expliquer cette mobilisation en ce qui concerne donc l'Ukraine à travers donc la guerre avec la Russie? Au regard de la faible mobilisation des pays au sud du Sahara face au terrorisme, face aux groupes armés, pourquoi on donne tant de moyens à l'Ukraine pendant qu'on sait qu'il y a de grosses menaces là et les populations en souffrent et on ne soutient pas autant? Comment on peut l'expliquer?
Vous mettez le doigt sur une dimension tragique des relations internationales contemporaines. Osons le terme, les relations internationales, la diplomatie sont inégalitaires. C'est-à-dire, combien de fois j'ai entendu et été profondément choqué que sur nos antennes radiophoniques ou télévisées en France, en Europe, on nous dise « Ah, mais l'Ukraine, c'est différent parce que c'est des gens comme nous ». Vous vous rendez compte de la grossièreté du propos des gens comme nous? Les Syriens, les Yéménites, les Maliens, les Burkinabés ne seraient pas des gens comme nous. Ça m'écorche la bouche de dire ça, mais il faut regarder la réalité en face. Et effectivement, on ne comprend pas que, outre que cette posture n'est pas éthique, n'est pas morale, elle n'est même pas rationnelle. Parce qu'une Afrique rongée par la violence, nécessairement, se retournera un jour contre les pays européens. Quand il y a une souffrance quelque part dans le monde, c'est à terme l'humanité tout entière qui est atteint par cette souffrance, d'une manière ou d'une autre, soit directement, soit par le biais de violence, de défiance, de méfiance. On a vu aussi ces spectacles terribles d'étudiants congolais qui sont nombreux en Ukraine, qui n'avaient pas le droit de fuir avec les autres, que les gardes frontières polonais rejetaient parce que ce n'étaient pas des Ukrainiens. Et vous savez, nous sommes un peu à un tournant de notre histoire mondiale. C'est-à-dire, je vous disais tout à l'heure qu'on entre dans le temps de l'interdépendance. Pour que les choses se passent bien, il faudrait qu'en même temps, on entre dans le temps de l'humanité. C'est-à-dire, tous les humains ont besoin de tous les humains. Et ça, on n'arrive pas encore à le comprendre. Il y a en Europe un vent mauvais, nationaliste, populiste, raciste, xénophobe, anti-migrant. Encore récemment, une tragédie épouvantable en Méditerranée. Et ce vent mauvais permet, là aussi, je vais faire mal en disant ça, à certains entrepreneurs politiques d'être élus. La xénophobie devient, ça et là, un bon produit sur le marché électoral. L'anti-migration, ça se vend bien. Et donc, nous sommes dans ce mauvais moment. On l'a vu avec le trumpisme aux États-Unis. C'est pas seulement un phénomène européen, c'est un phénomène mondial. Donc, il faut être très vigilant à cela. Et il faut, je le dis à mes amis africains, il faut que l'Afrique se réveille. C'est-à-dire, il faut que l'Afrique se convainque qu'elle a une voix propre, une voix à elle-même, qui peut témoigner dans ce monde en disant, bah écoutez, le monde tel que je le vois, il y a ça, ça et ça qui ne va pas et auquel il faut donner la priorité. Malheureusement, l'Afrique ne parle pas assez directement. L'Afrique parle à travers d'autres, où l'Afrique reste silencieuse. Moi, je pense que, y compris sur le conflit russo-ukrainien, l'Afrique, elle a des choses à dire. D'autant qu'elle est engagée directement, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc, elle a des choses à dire, à témoigner. Et c'est peut-être ce témoignage venu d'ailleurs qui permettra de trouver l'autoroute de la paix qu'on a du mal à découvrir aujourd'hui.
Quel est votre regard sur la résurgence des coups d'État, des coups de militaires, des coups de force par rapport aux institutions africaines dans les pays de l'Afrique de l'Ouest ici? Quel est votre regard?
Depuis déjà belle lurette, hein, les premiers coups d'État militaires en Afrique, c'est les années 60. Hein. Rappelez-vous l'assassinat de Sylvanus Olympio ou le coup d'État contre Kwame Nkrumah. Dès les années 60, le coup d'État apparaissait comme cette réaction mécanique à un défaut de légitimité et de visibilité des institutions politiques. Et il se trouve que dans toute société, l'armée est l'institution la plus dotée, c'est ainsi. Et donc, quand les institutions ne fonctionnent pas, elle est potentiellement en substitut. Le problème, c'est que une fois qu'elle est au pouvoir, il est difficile de l'en déloger. Hein. Et ça, on l'a vu en République centrafricaine lors du coup d'État de Bokassa, on l'a vu au Congo-Brazzaville, au Tchad, mais aussi au Bénin, je sais pas si vous rappelez, le colonel Soglo, et puis ensuite Mathieu Kérékou, et puis au Mali, on l'a vu et on le voit encore, et en Mauritanie, et même au Niger, pays calme, qui a eu aussi son temps de coup d'État. Et ici, en Côte d'Ivoire, rappelez-vous du temps du général Gay, on n'était pas très loin aussi d'une logique de pronunciamento. Donc, c'est une épidémie. C'est une épidémie qu'il faut combattre, mais je ne suis pas sûr qu'on ait encore trouvé la bonne voie pour la combattre.
Alors, un mot sur le discours du président français, discours donc relatif à la définition des nouveaux rapports entre l'Afrique et la France. Bien entendu, avant que vous ne vous prononciez, vous allez nous dire, aujourd'hui, selon vous, en tant qu'enseignant-chercheur, quel est l'état de ces rapports entre l'Afrique et l'ancienne colonie française?
Alors, vous savez, je disais tout à l'heure que la décolonisation n'avait jamais été achevée sur le plan des institutions. Mais du côté de la France, je crois que la décolonisation n'a jamais été véritablement comprise. La France n'a jamais su couper le cordon ombilical qui la reliait aux pays africains, aux sociétés africaines. Et de ce point de vue-là, on a été moins lucide que nos voisins britanniques, par exemple. Ou alors nos voisins portugais. Les Portugais se sont davantage entêtés dans une politique coloniale jusqu'au milieu des années 70, mais une fois que les États africains lusophones ont pris leur indépendance, le Portugal s'en est retiré. la France a toujours voulu maintenir quelque chose. Alors, il y a des petits repères d'histoire qui sont intéressants. Le général de Gaulle, qui est le grand parrain de cette décolonisation, et qui a joué un rôle éminent, bah, lorsqu'il est venu parler devant l'Assemblée parlementaire de la Fédération du Mali, juste après l'indépendance, du temps où Sénégal et Mali fonctionnaient ensemble, a dit, vous savez, l'indépendance, aujourd'hui, ça n'existe plus, il n'y a plus que l'interdépendance. Et puis Michel Debré qui écrit à Léon Mba en disant, vous savez, c'est pas parce que vous êtes indépendant que vous pourrez faire ce que vous voulez. Ça, ça a été quelque chose qui s'est maintenu à travers ce qu'on appelle la France-Afrique. Et ce qui m'a frappé dans le discours d'Emmanuel Macron, certainement plein de bonne volonté et de lucidité en la matière, c'est que ce lien n'est toujours pas tranché. C'est-à-dire, on parle toujours de ces liens particuliers entre la France et l'Afrique. Moi, je veux bien des liens particuliers d'amitié. Je les vis, moi, dans les 35 voyages que j'ai fait en Afrique subsaharienne. Mais politiquement et économiquement, il y a toujours une ambiguïté. Cette ambiguïté, elle n'est toujours pas levée. Pourquoi faut-il absolument parler de liens spéciaux? Pourquoi plus avec les pays d'Afrique francophone qu'avec les pays du Moyen-Orient ou avec les pays d'Asie du Sud? Pourquoi faut-il parler de responsabilité particulière? En quoi la France a, par rapport à l'Afrique, une responsabilité particulière plus que la Suède ou la Norvège, le Canada ou je ne sais quoi? Moi, c'est quelque chose qui me gêne. On ne parvient pas à rompre avec cela. Et quand il est question de ce point sensible que sont les bases militaires, on vous explique, on va alléger le dispositif militaire français en Afrique, mais il ne va pas disparaître, il y aura toujours des bases. On nous explique qu'elles seront co-gérées. Moi, je veux bien. Pourquoi pas imaginer une base militaire ivoirienne en Alsace ou une base militaire gabonaise en Bretagne? On sent que cette approche, c'est celle de l'ancien monde, différente de celui dont je parlais tout à l'heure. Je me souviens lorsque Emmanuel Macron serait rendu à Ouagadougou, c'était en novembre 2017, pour prononcer le discours de rupture. Déjà, vous voyez. Puis ce discours de rupture, moi, il se trouve que je suis passé à Ouagadougou quelques temps après. Les étudiants burkinabés qui étaient là m'ont dit, bah, on a eu un peu le sentiment contraire. Voilà, si vous voulez. Je pense qu'il ne s'agit pas de parler de rupture, parce que l'amitié, elle ne connaît pas de rupture. Le cœur ne connaît pas de rupture, ou alors c'est l'infarctus et vous mourrez, n'est-ce pas? Il faut banaliser les relations entre la France et l'Afrique. Il faut arrêter de convoquer l'Afrique. La convoquer à Pau, la convoquer à des sommets, convoquer la jeunesse africaine à Montpellier. Et pourquoi on ne convoquerait pas la jeunesse française à Yamoussoukro ou à Bouaké, hein? Il y a quelque chose d'asymétrique. Et dans un monde d'interdépendance, si vous misez sur l'asymétrie, eh bien vous échouez. Je pense qu'il faut, pour le bien de la France, vous voyez, je dis même pour le bien de la France, que nous écoutions l'Afrique, que nous écoutions les Africains nous parler de leurs souffrances et de nous dire quelle direction il faut prendre pour lever ces souffrances. Écouter les autorités locales des régions sahéliennes, les chefs de village, les chefs de tribu, qui viennent vous expliquer quel est leur problème au quotidien. Et leur problème au quotidien, c'est pas le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le problème quotidien des villages au Sahel, c'est la survie, c'est éviter la mort.
Alors, mais selon vous, comment doit se décliner ces nouvelles relations France-Afrique?
Comment les décliner?
Oui.
Ben, moi, je crois qu'il faut d'abord connaître ce que le monde est devenu et en tirer les conséquences dans nos rapports avec l'Afrique. Moi, je pense que dans un tout premier temps, il faut inverser la flèche. C'est-à-dire, il faut arrêter de dire aux Africains ce qu'ils doivent faire. Enfin, est-ce qu'on imagine que le président Ouattara viendrait en France et dirait « je vous donne 15 jours pour régler le problème des retraites en France, sinon je vais me fâcher ». Un peu bizarre. Eh bien, inversons la pente. C'est-à-dire, il faut que l'Afrique dise, il faut que l'Afrique demande, il faut que l'Afrique accomplisse. Dise quelles sont ses attentes et ses besoins. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il fallait convoquer une grande conférence interafricaine sur la gouvernance globale du social. Que l'Afrique dise sa liste de courses. Ensuite, il faut qu'elle exige, elle a, elle peut, elle doit exiger du système international des formes nouvelles de solidarité qui n'ont jamais été construites ni institutionnalisées. Et enfin, il faut qu'elle accomplisse, c'est-à-dire il faut qu'elle fasse ce travail dans la coopération internationale, mais pas dans la coopération telle qu'on l'entend d'autrefois. La coopération, dans les oreilles d'un Français, ça veut dire l'allégeance, l'obéissance.
Alors, un mot de la coopération entre États africains, la coopération inter-Afrique.
Vous savez, c'est un sujet qui m'est très sensible, parce que je me souviens que lorsque Kwame Nkrumah est arrivé, ça a été un des premiers États indépendants de l'Afrique occidentale, le Ghana, la fameuse Côte d'Or devenue Ghana. Il disait, la bonne solution, c'est pas de créer un État-nation, parce que là, on va se faire avoir. On va retomber dans la dépendance. Nkrumah, lui, misait sur le panafricanisme. Alors, le panafricanisme, ça ne veut pas dire les États-Unis d'Afrique. Et le panafricanisme, ce n'est pas cette espèce de protestation presque xénophobe à son tour que l'on oppose au reste du monde. Non, c'est véritablement créer de la cohésion en Afrique pour marcher ensemble. Marcher ensemble. C'est plus que de la coopération, marcher ensemble. La coopération, ça veut dire donnant, donnant, je te donne ça, tu me donnes ça, etc. Là, je pense qu'il faut aller au-delà, c'est-à-dire marcher ensemble, ça veut dire créer les conditions, non pas de l'autosuffisance africaine, parce que ça n'arrivera jamais, mais en tous les cas, d'une synergie africaine. Et la synergie africaine, c'est pour le bien de l'Afrique, mais c'est aussi pour le bien du monde. Parce que la voix d'un État africain parmi les 54, ça compte pas beaucoup. La voix du continent qui représentera 40% de l'humanité à la fin de ce siècle, ça, ça compte beaucoup.
À quand l'Afrique peut espérer avoir son siège au Conseil de sécurité, puisque, vous le dites, c'est vraiment important que l'Afrique puisse faire entendre sa voix, et je pense que l'espace, le cadre idéal pour faire entendre sa voix aussi, c'est y compris au siège du Conseil de sécurité. À quand un siège pour le continent africain ?
En tant qu'universitaire, je peux dire les choses directement. Le Conseil de sécurité, il est mort. Il est mort. Regardez tous les drames du monde. Jamais le Conseil de sécurité n'a pu les prendre en charge. Ni le conflit syrien, ni le conflit israélo-palestinien, où les États-Unis ont imposé 42 fois leur veto, ni le conflit ukrainien, où là, la Russie oppose son veto systématiquement, ni les grands problèmes globaux. C'est-à-dire, lorsque on a voulu introduire la question dramatique du changement climatique au Conseil de sécurité, le délégué russe, monsieur Nebenzia, a dit « ce serait contre-productif de parler d'insécurité climatique ». Donc il est mort. Si on veut qu'il renaisse, il faut le changer. Mais le changer, si vous avez un projet de réforme, immédiatement va provoquer le veto de l'une des cinq puissances, et il y en a deux qui sont particulièrement bien placées de ce point de vue-là, les États-Unis et la Russie. Donc, il faut trouver une autre voie. Et cette autre voie, je pense que l'Afrique peut la porter en disant, bah écoutez, si vous ne nous reconnaissez pas un siège de membre permanent, nous on arrête de siéger au Conseil de sécurité. C'est-à-dire on n'est pas là pour faire les figurants. Et j'attends de mon pays, de la France, qu'elle dise, je suis solidaire, et si nos amis africains ne siègent plus au Conseil de sécurité, moi non plus je ne siégerai plus. Et le jour où il y aura ainsi des positions de principe qui viendront affecter collectivement, à travers plusieurs membres du Conseil de sécurité, cette institution, il faudra bien la changer. Donc effectivement, c'est dramatique. Un Conseil de sécurité sans un, je dirais même deux, parce que l'Afrique, à la fin du siècle, je l'ai dit, 40% de l'humanité. Donc un siège sur six, ça sera encore en dessous de la ligne. Donc si l'Afrique n'est pas reconnue comme telle, on ne va plus au Conseil de sécurité, on va au cinéma à la place.
Bertrand Badi, professeur à Sciences Po Paris, merci beaucoup. C'est la fin donc de cette grande interview. Donc je recevais Monsieur Bertrand Badi, il est professeur à Sciences Po Paris. Il était là dans le cadre donc de la semaine des leaders pour la paix en collaboration avec la Fondation Amadou Gon Coulibaly, un moment de formation et d'apprentissage et de partage d'expérience sur la vision du monde. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivis sur Radio de la Paix. Nous avons parlé donc des nouvelles relations internationales, ces nouvelles relations internationales vues par Bertrand Badi, professeur à Sciences Po au Paris. Bonne suite de programme sur Radio de la Paix.
Ben Diakité. Réalisation Antoine Kouassi.
Vous venez de suivre la grande interview.